À toutes et à tous, c'est encore un bon moment que nous avons passé dans la louange. C'était très fortifiant, très encourageant. Et à chaque fois, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on a bien fait de braver la pluie, le temps et de venir dans la maison de Dieu pour l'adorer, pour le célébrer. Et donc, voilà, c'est vraiment toujours très agréable d'être dans la présence de Dieu. Et comme notre frère Benoît vient de le dire, nous allons maintenant entrer dans la parole de Dieu. Et comme vous le savez, c'est cette petite tradition que nous avons, quelques dimanches par mois, de ne pas avoir une prédication, mais d'avoir un enseignement. Alors, nous allons commencer un premier enseignement pour l'année 2025. Alors voilà, comme je l'ai souvent expliqué, c'est pas l'idéal. C'est des sujets qui ne sont pas adaptés au culte public dominical. Mais comme c'est le seul moment où la majorité des gens sont là, eh bien, il y a des sujets qu'on développe le dimanche matin. Et ce matin, je commence un enseignement qui est l'enseignement le plus délicat qu'on puisse aborder dans une église locale. Donc j'en ai déjà eu quelques-uns, on avait fait l'argent et ce genre de choses, mais là maintenant, on arrive quand même au sujet le plus délicat, le plus embêtant, et je vais un petit peu introduire en expliquant pourquoi, et en expliquant pourquoi il faut quand même en parler, même si c'est délicat, même si c'est difficile, pourquoi il faut quand même en parler. Alors, nous allons nous arrêter sur le sujet de la discipline dans l'église locale, de la discipline d'église. Alors, c'est un sujet qui est difficile parce que c'est un sujet sensible, mais c'est un sujet très important pour la vie de tout chrétien et la vie de toute église. Tout chrétien et toute église doit être au clair sur ce que la Bible nous enseigne au sujet de la discipline dans l'église locale. C'est un sujet sur lequel, dans nos églises, il y a beaucoup de blessures, souvent à cause d'erreurs commises par les responsables, mais aussi souvent parce que les gens vivent mal la discipline d'église, parce que souvent ils ne connaissent pas ce que la Bible dit à ce sujet. Souvent les gens ne savent pas, parce qu'on n'en parle pas. Et je dis ça sans prétention, mais je suis sûr que la majorité, n'ont jamais entendu un enseignement sur la discipline d'église. Voilà, parce qu'on n'en parle jamais. Et du coup, quand on le fait, quand on doit la mettre en œuvre, tout le monde tombe des nues. Et donc c'est très simple, dans la majorité des églises, chaque cas de discipline tourne mal. C'est simple. À chaque fois qu'on l'exerce, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'entend pas, et donc, ben voilà, il faut quand même qu'on s'arrête sur ce sujet un petit peu. Et donc, c'est un sujet aussi, voilà, sur lequel certains chrétiens sont aussi très résistants, soit parce qu'ils ne connaissent pas ce sujet, soit parce qu'ils sont mal affermis. Et que, étant mal affermis, ils ne comprennent pas l'importance de certaines choses. Et donc, c'est pour ça que nous allons aborder ce sujet. C'est un mot qui fait peur, discipline. Même quand on vous parle de discipline en général, tout le monde est déjà tremblant. Alors, discipline d'église, alors on est tous là, mais c'est quoi ce truc? Voilà. Donc, c'est pas le thème le plus joyeux du monde, hein. C'est pas la louange, la joie, tout ça. Mais c'est quand même un sujet important. Je vais essayer qu'on ne traîne pas ça en longueur non plus, hein. Comme ça, vous ne serez pas dégoûté de venir au culte. Mais c'est quand même un sujet sur lequel il faut qu'on s'arrête, et il faut qu'on s'arrête suffisamment bien que pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, je vais commencer par dire quelques raisons pour lesquelles la discipline d'église est un sujet important. Première raison, la discipline d'église fait partie de ce que l'on peut considérer une marque d'une église fidèle. En d'autres termes, comment est-ce qu'on peut reconnaître une église fidèle à la parole de Dieu? C'est une église où on exerce la discipline. Alors, cette réalité-là vient du tout début du protestantisme. À un moment donné, les réformateurs se sont demandé quelles sont les caractéristiques fondamentales d'une église? Comment est-ce qu'on reconnaît une église? Qu'est-ce qui nous fait dire que là, on est réellement face à une église qui est fidèle au regard de la parole de Dieu? Et les réformateurs, dans beaucoup de confessions, notamment la confession d'Augsbourg, mais sur base de la parole évidemment, ont défini trois grands critères de ce qu'est une église fidèle à la parole de Dieu. Le premier critère, c'est une église où la parole de Dieu est fidèlement prêché et reçu par tous ceux qui l'entendent. En d'autres termes, le premier critère, c'est le caractère fidèle de l'enseignement de la parole. Évidemment, vous pouvez être dans l'église la plus belle du monde, avec les plus beaux murs, les meilleurs chants, si l'enseignement n'est pas fidèle, nous ne sommes pas dans une église. C'est un rassemblement de gens, mais on n'est pas dans une église. Deuxième condition qu'ils ont établie, c'est que les sacrements, baptême et sainte-cène, sont droitement administrés. Alors, droitement administrés, ça veut dire, un, qu'on les pratique, ça veut dire, deux, qu'ils sont bien enseignés. Vous savez qu'il y a plein d'explications, d'enseignements, il s'agit vraiment de l'idée que ces sacrements sont bien compris, bien expliqués, bien mis en pratique dans l'Église. Et puis la troisième condition qu'ils ont donnée, c'est une église, c'est un endroit dans lequel on exerce la discipline ecclésiastique. En d'autres termes, si on enlève cette condition-là, on n'est pas dans une église. On est dans un groupement de gens qui se rassemblent pour parler de Dieu, pour lire la Bible, pour chanter, mais on n'est pas dans une église. Et très vite, ça va mal tourner. Assurément et forcément, quand on n'exerce pas la discipline dans une église, un jour, il y aura des catastrophes. Et donc, c'est un sujet important parce que dans une église où on veut être fidèle, et j'espère que vous voulez quand même être une église fidèle à la parole, eh bien, on doit s'intéresser à la discipline d'église. Alors, comme je dis, il y a tellement de gens qui en ont souffert. Parfois, parce qu'en effet, il y a eu des mauvais comportements, il y a eu des mauvaises décisions, il y a des églises où on a fait n'importe quoi sur ce sujet. Donc, c'est normal que certains aient peur de ce sujet, mais comme vous le voyez, il faut vraiment qu'on prenne conscience que ça doit être présent dans notre église et dans toute église. Alors voilà une confession de foi des Pays-Bas, mais qui résume un peu cette idée des réformateurs. Je la lis. Les marques pour reconnaître la vraie église sont les suivantes. L'église prêche purement l'évangile, elle administre purement les sacrements comme Christ les a institués, et elle fait usage de la discipline ecclésiastique pour corriger les péchés. Bref, elle se conforme à la pure parole de Dieu, rejetant toutes choses qui y sont contraires et considérant Jésus-Christ comme le seul chef. C'est ainsi que l'on peut reconnaître avec certitude la vraie Église. Alors, évidemment, ils ne se sont pas levés un matin pour définir ces critères-là. Quand on lit la Bible, on voit en effet que ce sont des critères fondamentaux. Évidemment qu'il y en a d'autres, évidemment qu'il y a d'autres choses importantes, mais là, on est vraiment dans des critères de fond, des critères fondamentaux. Alors, la même confession nous donne aussi, c'est une parenthèse, mais importante, parce que vous allez voir qu'après, on va revenir sur cette notion-là. La même confession nous parle également de comment est-ce qu'on reconnaît un vrai chrétien. Vous allez voir que c'est un sujet important. Et voici ce qu'elle dit. Quant à ceux qui sont de l'Église, on peut les reconnaître par les marques des chrétiens. Comment est-ce qu'on reconnaît un chrétien? Ils ont reçu par la foi le seul sauveur Jésus-Christ. Ils fuient le péché et recherchent la justice. Ils aiment le vrai Dieu et leur prochain, sans se détourner à droite ou à gauche, et ils crucifient leur chair avec ses œuvres. Bien qu'il y ait encore de grandes faiblesses en eux, ils combattent par l'esprit tous les jours de leur vie. Ils ont continuellement recours, on sent, à la passion et à la mort, et à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ, par qui ils ont le pardon de leurs péchés par la foi en lui. Voyez, je vais insister juste sur l'aspect. Comment est-ce qu'on reconnaît un vrai chrétien? Il a reçu Jésus, il croit en Jésus. Voyez l'expression, il fuit le péché. Mais la citation ne dit pas seulement qu'il fuit le péché, il dit aussi, il y a encore de grandes faiblesses en eux. Le texte, l'idée, c'est pas de dire que le chrétien doit être parfait, qu'il est exempt de tout péché. L'idée, c'est de dire qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui fuit le péché. Il a encore des faiblesses, mais il se bat contre le péché. C'est ça qu'un vrai chrétien. Un chrétien, c'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui a certainement des faiblesses, des difficultés, des combats, mais qui ne s'y installe pas, qui ne les accepte pas, et qui combat contre son péché. Et donc, vous allez voir que la discipline d'Église, elle vise justement toutes ces situations dans lesquelles quelqu'un, par exemple, ne va plus combattre le péché et va le tolérer dans sa vie. À partir du moment où quelqu'un va dire, ben, moi, je vis dans le péché, oui, c'est vrai, c'est comme ça. On va considérer, on va commencer à dire, mais est-ce qu'on a en face de nous un vrai chrétien? Le vrai chrétien va dire, je sais que c'est un péché, je demande pardon à Dieu et je m'en attriste et j'en suis désolé. Mais celui qui n'est pas chrétien va dire, bon, moi... Donc c'est une parenthèse, mais vous allez voir qu'on va y revenir dans quelques secondes. L'exercice de la discipline dans l'Église est une condition de sa bonne santé spirituelle. Une Église où on n'exerce pas la discipline est une Église qui sera en mauvaise santé spirituelle. Mauvaise santé spirituelle, ça veut dire que déjà les gens vont mal s'y sentir, les gens vont pas grandir spirituellement, les gens vont parfois s'égarer. Ce sera une Église aussi, et c'est important de le dire, qui parfois pourra perdre la bénédiction de Dieu. C'est important la discipline d'Église parce qu'elle nous permet de nous assurer que Dieu continue à déverser sa bénédiction au milieu de nous. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit à une église, vous connaissez les lettres aux églises, Laodicée, Éphèse et tout ça, dans le livre, à un moment donné, il est dit à une église, si tu continues sur cette voie, je viendrai et j'ôterai le chandelier. Chandelier qui est le symbole de la présence de Dieu. Quand on n'exerce pas la discipline dans une église, il peut arriver que Dieu y retire sa présence et sa bénédiction. Parce que justement, ce n'est plus une église fidèle, ce n'est plus un rassemblement de gens qui veulent marcher selon la parole de Dieu, mais c'est un rassemblement de gens qui vivent dans le désordre. Et Dieu ne peut pas bénir un endroit où l'on accepte le désordre, où l'on tolère le péché. Deuxième chose aussi, et c'est une chose importante, la bonne compréhension du sens, de la raison d'être et du fonctionnement de l'Église, de la discipline dans l'Église, est un signe de grande maturité spirituelle. Les chrétiens matures, pour être un chrétien mature, nous devons savoir ce que la Bible dit sur ce sujet et nous devons être heureux de voir la discipline exercée dans l'Église. Les chrétiens matures sont contents qu'on exerce la discipline dans leur église. Souvent, les gens ne sont pas contents. Les gens se choquent. Un chrétien mature qui connaît la parole de Dieu et qui connaît tout ce qu'on va voir maintenant, il est content d'être dans une église où on exerce la discipline. La maturité spirituelle, c'est aussi d'accepter cet aspect-là de la parole de Dieu. C'est un aspect qui est difficile. C'est pas juste, ah oui, il m'a sauvé, youloulou. Oui, c'est difficile, bien sûr. Mais quand on comprend le sens, la raison, l'importance de ça, alors un chrétien va se dire, franchement, moi, je veux être dans une église où on exerce la discipline. Parce que c'est important. Qu'est-ce que la discipline d'église? Je vous donne quand même une définition puisque j'en parle depuis 2 heures et que j'ai pas encore donné de définition. Il s'agit de toutes les situations dans lesquelles l'église est appelée à réagir. Ce sont les situations de vie dans lesquelles l'Église, dans sa composition, est appelée à réagir pour corriger une personne, un groupe de personnes ou un fonctionnement dans un but de préservation des personnes et de l'Église. La discipline d'Église, ce sont toutes les situations où l'Église est appelée par la parole de Dieu à réagir, à intervenir, face à des problèmes qui mettent en péril sa santé et qui mettent en péril le témoignage de Jésus-Christ. La discipline d'Église nous apprend que l'Église n'est pas en fait un endroit où en fait tout peut se faire, tout peut se dire et où personne n'a d'autorité sur rien. La discipline d'Église nous montre que l'Église a une autorité sur elle-même. Je parle bien de l'Église, j'ai pas encore parlé des raisons. L'Église a une autorité sur elle-même, sur ce qui s'y vit, sur ce qui s'y fait. Et l'Église, attention, c'est le plus difficile, a une autorité sur ses membres. Une Église locale a une autorité sur ses membres. Les membres d'une Église locale acceptent l'autorité de leur Église locale sur eux-mêmes. Et donc, ce sont les situations dans lesquelles l'Église, par rapport à ses membres, par rapport à un groupe de membres, par rapport à une situation, va avoir à réagir et à poser des gestes et parfois à prendre des décisions. Quelles sont les situations qui sont concernées, pour être un peu concret? Premièrement, ce sont les situations de péché public ou les situations de désordre d'un membre de l'Église. Premièrement, les situations de péché public. J'insiste déjà en disant une chose, parce qu'il ne faudrait pas que ça soit mal compris. La discipline d'Église ne concerne pas nos faiblesses personnelles. La discipline d'Église ne concerne pas nos trébuchements personnels, nos difficultés, comme on en a tous. On vient de voir qu'on a des faiblesses. D'accord ? Si vous venez me voir en me parlant d'une de vos faiblesses, ça reste entre vous et moi, ça ne concerne pas la discipline d'Église. La discipline d'Église concerne les situations publiques. Dans les situations publiques, notamment, premier exemple, il y a la situation de péché non repentant. Ce serait le péché d'une personne qui une situation d'une personne qui vit dans un péché public, connu, non repentant. C'est-à-dire, je vis comme ça, c'est comme ça, je suis membre de l'Église, mais je vis dans un péché public, non repentant, supporter les choses comme ça, je ne me repens pas de mon péché. Après conseil, après encouragement, après exhortation, la personne ne se repent pas et ne reconnaît pas sa faute. C'est un premier exemple de situation qui appelle la discipline d'Église, c'est le péché non repentant. Deuxième type de situation dans cette catégorie-là, et qui est souvent très peu connue, très mal comprise, ce sont les situations, pas forcément de péché, mais souvent de péché, qui peuvent avoir pour effet de scandaliser les autres croyants, ou, en d'autres termes, d'être une pierre d'achoppement pour les autres croyants. Ça, c'est très important. Ce sont les situations où quelqu'un va avoir un comportement qui est de nature à pouvoir entraîner les autres à tomber et qui pourrait amener les autres aussi à perdre leur repère et s'éloigner de Dieu. Alors, je donne un exemple que j'ai déjà donné cet exemple mille fois, je le sais bien, donc ne dites pas que je radote, je sais que j'ai déjà dit. Imaginez que vous trouvez l'un d'entre nous, je ne donne pas d'exemple aujourd'hui. En général, je dis des noms, mais là, je dirais encore des noms, mais pas maintenant. Mais imaginez que vous trouvez l'un d'entre nous à la place de la digue, un samedi soir, complètement alcoolisé, debout sur une terrasse, sur une table de terrasse, en train de faire aller son t-shirt et de dire des insanités. Vous le voyez le samedi soir et vous êtes là, vous passez. Ben c'est notre frère. Imaginez que ce frère-là, c'est clairement du désordre. C'est pas un témoignage chrétien. Vous êtes d'accord avec ça au moins. Parce que si vous me dites, ça me choque pas. C'est pas comme ça qu'un chrétien doit vivre. Ce chrétien, imaginez qu'il est vu par tout un ensemble, par certains ou par même tout un ensemble d'entre nous dans cette situation-là, il est dans une situation où il peut, par son attitude, induire, donner un mauvais exemple aux autres chrétiens. Il montre un mauvais exemple aux autres chrétiens, il donne l'impression que ça, c'est la vie chrétienne normale. Si l'Église ne fait rien, elle donne l'impression que ça, c'est correct. Et elle ôte le repère de Dieu dans la communauté. Quand l'Église ne fait rien, elle perd les chrétiens en ôtant justement des repères fondamentaux de la parole de Dieu. Dans l'Église, l'enseignement, c'est pas juste dans ce qu'on dit, c'est aussi dans ce qu'on fait. Et c'est aussi inviter les membres à être cohérents par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu. Et donc, vous voyez, c'est une situation, oui, mais ça peut scandaliser les autres. Déjà, ça peut scandaliser, les gens vont dire, mais c'est quoi ça, et ça peut aussi faire tomber les autres. Et donc, c'est une situation qui peut amener à la discipline d'Église. Prenons un autre exemple, toujours pour le péché qui peut occasionner la chute des autres. Imaginez-vous qu'à la fin d'un culte, l'un d'entre nous, pour une raison inconnue ou non, ou même pendant un culte, que l'un d'entre nous, pète un câble et se met à insulter quelqu'un, comme ça, publiquement. Imaginez-vous que un jour, je dis à Eric, de toute façon, t'es qu'un sale, t'es un paresseux, et je commence à l'insulter comme ça devant tout le monde. C'est une situation qui peut faire chuter les autres. C'est un exemple, c'est un mauvais exemple qui est donné aux autres et qui peut scandaliser les autres, qui peut faire tomber d'autres chrétiens. Dans cette situation-là, imaginons que quelqu'un fasse ça et puis que il insulte Eric. à midi 10, et à 14 heures, il tombe par terre et il dit « Seigneur, je te demande pardon. Qu'est-ce que j'ai été faire ? J'ai été insulté, Eric, devant tout le monde. Je te demande pardon. » Et qui vient me voir et qui me dit « Ah oui, j'ai demandé pardon à Dieu. » Je lui dirais « C'est très bien. Et maintenant, tu devrais demander pardon devant tout le monde. Parce que ton péché a scandalisé tout le monde. Ton péché a mis en danger l'ensemble de la communauté. Et ton péché peut donner un mauvais exemple dans l'Église. Et ben voilà, des gens peuvent se dire que c'est normal, des gens peuvent quitter la foi à cause de ça, des gens peuvent... Tu vas devoir t'expliquer avec la communauté sur ton comportement. Donc l'Église réagit. L'Église dit pas, ben c'est ton... L'Église réagit. C'est une situation vécue. J'ai déjà vécu une situation comme ça où je donnais une étude biblique avec des chrétiens, des gens qui étaient là. Et puis, il y avait un frère qui, comme il y en a certains, il n'y en a pas ici, mais comme il y en a certains, qui était vraiment très, très pénible et qui interrompait toutes les cinq minutes pour dire des trucs qui n'avaient ni queue ni tête, qui nous a perdu du temps. Et un jour, et à un moment donné, il y a une sœur qui s'est énervée, qui a commencé à crier, qui est partie en claquant la porte et qui... Alors après, on l'a vu, on lui a dit, est-ce que tu connaissais tous les gens qui étaient dans la pièce ici? Tu les connaissais tous? Non. Et si dans la pièce, il y avait une personne qui venait pour la première fois à l'église, qui découvrait une communauté chrétienne, et qui voit un comportement comme ça? Ben, il va se dire que dans l'église, c'est la même chose que dans le monde. Il peut ne plus jamais remettre les pieds au milieu de nous à cause de ça. Donc tu t'imagines, tu risques de faire perdre quelqu'un à cause d'un comportement comme celui-là. Donc vous voyez que c'est aussi toutes ces situations-là qui peuvent, par un comportement, par une situation ou une autre, conduire les autres à perdre leur repère ou à tomber dans le péché. C'est une situation qui appelle la discipline de l'Église. Dans le concret, comment ça va se passer? Reprenons l'exemple d'Éric, celui qui a insulté Éric devant tout le monde, qui a dit à Eric, c'était qu'un sale machin, un sale machin. Quand on va lui dire, maintenant, tu vas devoir t'excuser devant tout le monde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va téléphoner et dire, mais dans cette église, les anciens sont des dingues. Ils veulent m'humilier devant tout le monde. Oui, mais quand t'as fait ça devant tout le monde, ça te dérangeait pas. Maintenant, il va falloir que tu t'expliques aussi devant tout le monde. Donc très souvent, la discipline d'église, c'est comme ça. Les chrétiens ne la comprennent pas. Et donc, quand ça arrive, eh bien, ils ont des réactions où ils ne sont pas contents. Mais voilà un exemple où on voit que la discipline d'église est importante parce qu'elle peut mettre en danger la santé de la communauté. Et il ne s'agit pas que de moi. Dans l'exemple qu'on a pris, le frère vient de dire qu'il a demandé pardon à Dieu. Oui, d'accord, mais il n'y a pas que toi et Dieu. Il y a aussi des gens autour de toi. Autre exemple, situation de conflit dangereux. Alors, on verra un peu une situation après, mais c'est la même chose. Situation de conflit dangereux. Il y a parfois des conflits dans l'Église, des situations dans l'Église qui peuvent mettre en danger sa santé. Exemple très important aussi, et ça c'est important de noter, la discipline d'Église s'exerce aussi par toutes les situations de fausses doctrines, de propagation de fausses doctrines dans l'Église, de faux enseignements. L'Église peut aussi avoir à intervenir par rapport à des enseignements, des prises de parole, des prises de position doctrinales qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Je l'ai déjà dit ici, un prédicateur invité peut venir et dire un truc un peu bizarre sur un texte, on va le laisser terminer. Il peut dire, ah oui, vous savez, il peut se tromper, il peut... Ok. Un prédicateur invité vient ici et il dit, vous savez, la Trinité, on ne sait pas trop, Jésus, fils de Dieu, on ne sait pas trop, on va l'interrompre en pleine prédication, on va lui reprendre le micro. Donc c'est la réaction de l'Église par rapport à une situation où on est en train de répandre une fausse doctrine. Parfois, dans certaines églises, ça arrive quand on fait des cellules de maison. Il arrive parfois qu'un responsable d'une cellule de maison soit pris d'une usine et commence à inventer des trucs, des concepts bibliques un peu farfelus. Et tout à coup, vous réveillez, vous voyez que dans l'église, c'est bizarre, il y a des gens qui disent des trucs bizarres, hein, qui commencent à avoir des discours bizarres parce que quelqu'un dans l'église transmet des idées qui sont pas conformes à la parole de Dieu. Ça appelle la discipline d'église. En général, on peut en parler à cette personne-là en disant « Attends, ce que tu dis, ça ne va pas ?» Mais si la personne ne l'entend pas, ça peut aller plus haut et l'église peut avoir à réagir publiquement par rapport à cette personne. Mais aussi, ça peut concerner toutes les situations de désordre communautaire en tout genre, comme on peut en avoir, eh bien, ça peut aussi être appliqué. Alors, frères et sœurs, détendez-vous. La discipline d'église, ce n'est pas le contrôle total de l'église sur les chrétiens. D'accord ? Justement, quand je parlais de débordement, il y a des églises où vous devez presque donner votre fiche de paye aux responsables, où vous demandez l'autorisation pour acheter une maison. C'est pas ça. On n'est pas dans une secte. On n'est pas dans un espace pour contrôler la vie des gens. C'est pas de ça qu'on parle. D'accord? La discipline d'église, c'est pas non plus, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est pas non plus instaurer une culture de jugement et de légalisme qui vise à toujours essayer de pointer les fautes des autres. C'est pas ça, la discipline d'église. S'agit pas qu'on passe notre temps à essayer de voir maintenant, ah, toi, t'as fait ça, donc je vais te dénoncer. C'est pas de ça dont on parle. Il s'agit pas non plus d'un autoritarisme des responsables sur ceux qui sont membres. La discipline d'église ne sert pas à certains responsables, à des pasteurs, à des anciens, d'affermir leur pouvoir, leur autorité pour écraser les gens. Et parfois, c'est le cas. Hein, il y a des pasteurs comme ça, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous font passer à la moulinette. C'est pas de ça dont on parle. Vous avez le droit de pas être d'accord, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit d'être vous-même. C'est pas non plus une attente de perfection vis-à-vis des enfants de Dieu. La discipline d'église, elle s'inscrit dans la grâce de Dieu qui concerne qui? Qui concerne des pécheurs. Que nous sommes tous. D'accord? Et donc, il s'agit pas de penser ou de croire que l'église devrait être un lieu de gens parfaits, qui ne disent jamais un mot qu'il ne faut pas, qui ont des pensées parfaites, qui ne pêchent jamais. C'est pas ça l'idée. On parle de situations dangereuses, on parle de situations extrêmes, on parle de situations publiques, on parle de situations qui peuvent mettre en danger les autres. Si moi, hier matin, j'ai menti à quelqu'un, c'est mon péché devant Dieu. D'accord? Je vais gérer ce péché dans la repentance, c'est moi et Dieu en effet. Mais si je me lève devant tout le monde et que je dis un mensonge à vous tous, c'est autre chose. Si j'insulte quelqu'un devant tout le monde, c'est autre chose. Donc on parle ici de situations très spécifiques. Et aussi, la discipline d'église n'est pas non plus un fonctionnement arbitraire et sentimental dans le fonctionnement de l'église. C'est pas non plus un tel il est désagréable, alors on va le mettre sous discipline, un autre on va l'excommunier. C'est pas de ça qu'on parle. On parle vraiment d'un concept biblique important et équilibré. Alors, la discipline d'église est un, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et il faut vraiment que vous écoutiez. Vous êtes fatigué, il est déjà 45, mais écoutez. De toute façon, on a rechanté deux fois un chant, donc je dois aussi prolonger pour... Ben oui. Donc, voilà. La discipline d'église, c'est un moyen, c'est un cadeau de Dieu. Vous avez du mal à l'imaginer, mais non, vous n'avez pas de mal à l'imaginer. Vous savez pourquoi ? Parce que quand vous disciplinez votre enfant, vous savez que vous lui rendez service. C'est la même chose dans l'église. Quand on discipline les chrétiens, quand on discipline la communauté, on rend service. C'est pas pour faire peur, c'est pas pour exclure, c'est pour rendre service. La discipline d'église est un moyen donné par Dieu aux croyants pour justement préserver les croyants et l'église, pour nous garder, dans une vie de sanctification et dans un témoignage qui rend gloire à Dieu. Dieu veut que nos vies le glorifient, Dieu veut que l'Église le glorifie, mais il sait que nous sommes dans un monde où certaines choses peuvent nous égarer. La discipline d'Église vise à nous garder dans le chemin de Jésus-Christ, dans une vie de sanctification, et elle vise à éviter que l'Église, justement, s'égare. Vous savez, frères et sœurs, chacun d'entre nous dans cette pièce, nous sommes soumis à des attaques spirituelles sans le vouloir, qui veulent nous égarer de Dieu. Ça peut être une tentation qu'on a dans notre vie. Ça peut être une situation, ça peut être quelque chose qu'on a dans notre cœur. On est tenté de plein de choses. Chacun d'entre nous, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons nous égarer. Nous sommes dans un monde où il y a tellement de philosophies déjà, mais aussi même dans l'Église, il y a tellement de doctrines et de fausses doctrines. Chacun d'entre nous, nous pouvons nous égarer si nous n'avons pas autour de nous des gens qui veillent sur nous. La discipline Église vise à nous éviter justement de nous égarer et de nous éloigner de Dieu. La discipline d'Église vise à corriger la trajectoire de chrétiens qui s'égarent pour les préserver du mal. Quand l'Église voit un chrétien qui est en train de s'égarer, elle doit réagir pour éviter justement que oups, ça dérape et que... Et donc, on va corriger la trajectoire de quelqu'un. Ça peut commencer par une simple réprime, on dit « Là, écoute, ce que tu fais, franchement, ça ne va pas. Tu te mets en danger. » Ça peut être une chose. Mais ça peut être plus loin, quand la personne n'écoute pas. Ça peut être des décisions publiques. Quand la personne ne veut pas écouter. La discipline d'Église vise, c'est un moyen donné par Dieu pour maintenir dans l'Église des standards de vie conformes à l'Évangile de Jésus-Christ. La discipline d'Église sert à préserver dans l'Église des repères qui doivent être clairs pour tout le monde. Dans une Église locale, tout le monde doit savoir à quoi doit ressembler la vie d'un chrétien. Nous devons tous être au courant de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas quand on est chrétien. Si vous me dites, ah ben moi, être alcoolisé à 23h à la place de la digue, sur une table, ça me dérange pas, je vais vous dire, il y a un truc qui cloche dans votre église. Ça veut dire que vous n'avez pas les notions de la séparation entre l'église et le monde. Un chrétien doit savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, voici ce que Dieu m'appelle à être, à faire, ben, et voici ce qu'on est quand on est dans le monde. Quand un chrétien n'a plus de différence et que tout pour lui semble normal, il y a un truc qui va pas. Donc la discipline d'Église vise à aider les chrétiens à toujours être au clair sur ce qui va, ce qui ne va pas dans la vie chrétienne. Et aussi, une chose importante, j'insiste aussi là-dessus, la discipline d'Église vise à protéger l'unité de l'Église. L'unité d'une communauté peut aussi très rapidement être mise en danger. La discipline d'Église vient aussi pour toutes les situations où on voit que, oula, on risque que ça tourne mal ici. Et on veut garder l'unité de l'Église, alors la discipline d'Église intervient. La discipline d'Église est un moyen de sanctification. Elle garde chaque croyant attentif à la gravité du péché. Tous ici, nous pouvons nous relâcher. Tous ici, nous pouvons à un moment donné, et je donne pas d'exemple, parce qu'il y a des exemples qui vous viennent en tête, vous voyez très bien. Tous ici. Mais la discipline d'Église, elle est là pour nous dire, attention. Pour que nous tous ne perdions pas de vue ce que Dieu, à quel point Dieu veut que nous soyons attentifs à certaines choses. Et donc, l'importance de la sainteté aux yeux de Dieu. La discipline d'Église est un moyen de croissance spirituelle. C'est aussi un moyen de sécurisation spirituelle de l'Église. Elle vise à protéger la doctrine de Dieu dans l'Église, à protéger la marche chrétienne des croyants, à protéger le discipulat, à éviter à un moment donné que ça parte en n'importe quoi. Et ça va vite. Ça va très vite. Et aussi, chose importante, la discipline d'Église vise à sauvegarder le témoignage de Dieu et de l'Église. Ça, c'est aussi important. La discipline d'Église vise à ce que l'Église soit composée de gens qui ont un témoignage qui glorifie Dieu. Elle vise à ce qu'il n'y ait pas des gens qui portent l'étiquette chrétien, mais qui vivent d'une façon qui salit le nom de Jésus. Le chrétien qu'on trouve à la place de la digue, nu, en train de... Il a un comportement qui détruit, qui dénature la position d'enfant de Dieu. Pensez à la discipline qui existe dans certains métiers. L'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des avocats. À quoi ça sert? Ça sert à ce qu'il n'y ait pas des gens qui se disent avocats, par exemple, et qui aient des comportements qui salissent toute la profession. Il suffit d'un avocat qui fait n'importe quoi, ça salit la profession. Même chose dans l'Église. Je ne peux pas me dire chrétien et avoir une certaine vie. La discipline d'Église vise à rappeler cela. Alors, je vais terminer rapidement, mais bon, en vous donnant des versets, ok? Comme ça, vous pouvez les lire chez vous, si vous voulez, pour vérifier que tout ça est biblique. Il y a des textes qui sont longs, donc vous allez les lire chez vous, je vais juste prendre les textes courts. La discipline d'Église est une pratique biblique. Ça, c'est important. Il y a des versets, il y en a plein sur ce sujet-là. Et c'est un sujet qui, c'est un sujet biblique qui est absolument nécessaire à la bonne santé de l'Église, à la croissance de l'Église et à l'honneur de Jésus-Christ. Alors, zoom sur certains versets, on y reviendra. Mais là, je les donne juste en gros. Premier passage, hein, vous le connaissez tous, vous l'avez déjà tous en tête de dire « Ah oui, c'est ça ». Premier passage, Matthieu 18. Jésus consacre un passage tout entier à ne parler que de ça. Si ton frère a péché, va le voir. S'il ne t'écoute pas, prends deux témoins. S'il ne t'écoute pas, dis-le à l'Église. S'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen qui n'appartient pas à Dieu. Vous allez lire le passage, mais ça vous donne quand même déjà un élément important. C'est un texte qui institue la discipline dans l'Église, qui institue le fait que l'Église doive réagir dans certaines situations. Donc, voilà les étapes, on y reviendra. Je reviendrai aussi là-dessus. 1 Corinthiens 5. Vous connaissez cette situation d'un homme qui était avec la femme de son père, qui est interdit par la Bible. Et voici ce que l'apôtre Paul dit. « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Alors j'expliquerai évidemment cette notion-là, mais vous voyez hein, que l'Église doit réagir. Une situation de péché comme ça, péché public devant tout le monde le sait, tout le monde le voit, l'Église doit réagir. On peut pas dire « Ah ben écoute, chacun sa vie, c'est entre lui et Dieu ». Non, 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 c'est public, ça implique tout le monde. Et alors je vais quand même lire comme ça, vous voyez quand même qu'il y a des passages difficiles hein, dans la Bible. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les impudiques et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, et de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. C'est dur, hein? Vous avez vu ce qu'il dit? Je vous écris de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère. Eh! Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire, je suis frère, mais je vis d'une façon contraire, et je ne me repens pas de mon péché. N'ayez pas de relation, dit-il, et il dit, il termine en disant, ôtez le méchant du milieu de vous. C'est dur, hein? Ça veut dire, à un moment donné, réagissez fermement. Et notamment, cette situation concerne ce qu'on appelle les mises sous discipline ou les excommunications. Ce sont les situations où quelqu'un va persévérer dans sa faute, et l'Église va devoir lui dire, nous ne te reconnaissons plus comme frère. Nous ne pouvons plus te dire frère parce que ton comportement est complètement l'inverse de ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Je donne d'autres exemples quand même. Hein. Désolé, mais bon, voilà. Tite 3, 9 à 10. Mais évite les spéculations absurdes, l'étude des généalogies, les disputes et les polémiques au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vides de sens. Si quelqu'un cause des divisions, avertis-le une fois, deux fois, puis écarte-le de l'Église, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Si quelqu'un cause des divisions, qu'est-ce que je dois faire? Avertis-le une fois, deux fois, et ensuite écarte-le de l'Église. Vous voyez un autre exemple de la discipline d'Église. Il y a des gens comme ça, des loups qui rentrent dans l'Église et qui créent des conflits. Hein, vous avez des gens comme ça, ils viennent dans votre église et bizarrement, ils ont besoin de passer des coups de fil à tout le monde. Ce qui est une bonne chose quand on est un frère. Mais bizarrement, les coups de fil sont toujours un petit peu les mêmes teneurs. Oui, allô, David? Oui, dit le frère, là, celui qui a présidé aujourd'hui, qu'est-ce qui lui a pris? Il était... Oui, allô, Eric, dit le frère, là, il est un peu spécial, non? Et donc, à un moment donné, on répand comme ça un venin dans la communauté, avertit-le une fois, deux fois, et ensuite écarte-le de l'Église. Alors, on va dire, écoute, on t'aime bien, mais tu crées des conflits, tu répands, on entend des choses sur toi, tu as dit un tel, tu as dit un tel. Maintenant, on te demande d'arrêter, ce n'est pas la gloire de Dieu. Alors, si le frère dit, oh, je suis désolé, parfois j'ai une grande langue, excuse-moi, ben viens, mon frère, et fais un gros bisou. Deuxième fois, écoute, ça commence à aller loin maintenant, parce que l'Église est mise en danger par tes comportements. Bah, si, voilà, s'il se repent, bah, ok. Si maintenant il dit, écoute, moi, de toute façon, c'est comme ça, je suis comme ça. Ah, ben, bah, ok, ben, maintenant, on va te demander de ne plus communier avec les autres. Tu peux pas passer ton temps à répandre ça et prendre la Sainte Cène avec moi. Ça ne va pas. Et puis, écoute, si tu viens encore et que tu prends plus la Sainte Cène et que tu continues ces comportements, ne viens plus. Reste chez toi. Voilà ce que la Bible nous enseigne. L'Église, c'est pas un club où chacun fait ce qu'il veut et où tout le monde observe en disant « Ah, oh, ben c'est bien, Jésus nous aime, Jésus nous aime. » Oui, Jésus nous aime. Oui, Jésus nous aime. Oui, Jésus est mort pour nous. Et parce qu'il est mort pour nous, il attend de nous que nous veillons sur notre comportement et que nous veillons sur l'ensemble de l'Église pour rester et vivre d'une façon qui le glorifie. Je termine. On voit que les apôtres exerçaient la discipline. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, rien à voir avec Alexandre, t'inquiète pas, rien à voir, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Mais aussi, dans la doctrine, c'est la même chose. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Même chose pour quelqu'un qui transmet de mauvaises doctrines. Le chrétien ne doit pas dire, oh, ben, c'est pas grave. Non, il y a des choses où on doit établir des limites et dire, ça ne va pas, ça va, ça ne va pas. OK? Bien. Voilà. Pour l'introduction, nous continuerons en essayant de comprendre au mieux comment Dieu a prévu tout cela et comment est-ce que nous pouvons faire pour que la discipline ne soit pas destructrice, mais qu'elle soit constructive pour la vie de l'Église. Amen.